au pays des contes. Bonjour. Les contes nous viennent de la nuit des temps. Ils nous disent ce que seuls les contes peuvent nous dire. Écoutez. C'est en Inde que prit sans doute naissance le conte que je vais vous dire. Un ermite dont l'esprit, par la solitude et la pénitence, se trouvait enrichi d'une puissance incomparable, se tenait en méditation, les mains ouvertes et tournées vers le ciel, dans le désert où il passait sa longue vie. Un vautour traversa l'espace au-dessus de lui et laissa tomber dans l'une de ses mains une petite souris grise. L'ermite contempla cette souris avec un émerveillement presque naïf. Elle se mit à courir familièrement sur ses bras, ses épaules et même sa tête, tandis qu'il se disait « Voici une créature vivante que le ciel m'envoie comme compagne. Je dois interpréter les désirs du ciel. Comme je suis trop âgée pour prendre une épouse, c'est sans doute ma fille qui vient de tomber dans ma main. Oui, je n'ai jamais eu d'enfant, ce qui est la faute la plus grave. Et le ciel me le fait savoir. Cette souris va devenir ma fille. » Et assemblant tous les pouvoirs de son esprit, il prononça les paroles qu'il connaissait, auxquelles la matière elle-même ne résiste pas. Et la souris se métamorphosa en une radieuse jeune fille, qui baisa les pieds de l'ermite en l'appelant tout aussitôt « mon père ». Et elle se mit à le servir. Ah, le vieil homme se réjouissait de la voir aller et venir, portant de l'eau et du bois, chassant les mouches persistantes et s'asseyant par moments sur la terre pour coiffer les cheveux, pour nettoyer les ongles de son père. Lorsque 2 années furent écoulées, remarquant quelques traces de mélancolie sur le visage de la jeune fille, l'ermite comprit qu'il était temps de lui trouver un époux. Mais comme elle était d'origine magique et envoyée du ciel, il lui fallait un époux d'exception. L'ermite réfléchit et lui dit « Voici le temps venu de te marier. » Ah, elle s'en montra très satisfaite, ses yeux brillèrent. « Qui te donnerai-je comme époux ? Veux-tu le soleil ? Veux-tu que je te marie au soleil ?» La jeune fille leva les yeux vers le soleil en se protégeant avec sa main et elle dit avec une grimace « Oh, le soleil, c'est loin, c'est brûlant et ça disparaît chaque nuit. Non, je veux un époux qui soit plus fort que le soleil. » « Plus fort que le soleil ?» dit l'ermite en réfléchissant avec force. « Eh bien, veux-tu que je te marie au nuage ? Car le nuage cache le soleil. » « Oh, le nuage, » dit la jeune fille avec une moue. « C'est gris, c'est froid, c'est humide. Par moments, la foudre le déchire et il gronde, il me fait trembler. Non, je veux un époux qui soit plus fort que le nuage. » « Ah, je ne vois que le vent, » dit le vieil homme, « car le vent disperse les nuages et les chasse au loin. Veux-tu que je fasse du vent ton époux ?»« Non, » dit la jeune fille, « je n'aime pas le vent. Il est brutal et indiscret. Parfois, des colères énormes le soulèvent, et il est fuyant et menteur. Je veux un époux qui soit plus fort que le vent. » « La montagne, » dit l'ermite. « Oui, la montagne est plus forte que le vent, car elle l'arrête. Je vais te marier à la montagne. » Ah, la jeune fille eut un mouvement de dégoût et elle dit à son père « La montagne est lourde et immobile. Elle est triste. Je la trouve même assez bête. Je veux un époux qui me comprenne, qui puisse rire et voyager avec moi. Je veux un époux qui soit plus fort que la montagne. » Oh, cette fois, malgré de longues réflexions, l'ermite ne put trouver aucune réponse. Et, assez humilié, il se mit en marche pour aller trouver un autre ermite qui vivait à quelque distance dans le même désert. Et il lui exposa son cas. Ah, je ne vois qu'une chose qui soit plus forte que la montagne, lui dit l'autre ermite après de très longues pensées. Qu'est-ce, je t'en prie, dis-moi la réponse. C'est la souris, lui répondit l'ermite, car elle peut creuser des galeries dans la montagne et vivre d'elle sans que la montagne puisse lui nuire. Ah, l'ermite revint à sa place. Il faisait nuit. Il trouva la jeune fille endormie, doucement souriante, caressée par les lueurs de la lune qui lui donnait un surcroît de beauté. L'ermite la regarda un instant dormir, puis il entra en méditation, réunit les forces de son esprit et prononça les paroles indispensables. Dans son sommeil, la jeune fille redevint une petite souris grise qui se mit à courir sur le sable et sur les rochers, et dès le jour suivant, elle rencontra un mâle. Et ils menèrent leur vie de souris, tout près de l'ermite, qui vit ainsi se multiplier leur progéniture, que les vautours venaient chasser. À présent, je vais vous parler d'un jeune homme. Un jeune homme qui avait une bonne étoile. Tout ce qu'il entreprenait réussissait. Il était fils de paysan. Il succéda à ses parents. En un an, il avait doublé les biens qu'on lui avait laissés. Mais cela ne lui suffit pas. Alors il partit de chez lui. Il s'en alla jusqu'au village pour apprendre un autre métier. Un vieil homme lui enseigna l'art de forger. Il avait une bonne étoile et très envie de travailler, il devint vite forgeron. Et il avait si bien appris qu'on venait de loin pour le voir et lui proposer de l'ouvrage. Il n'en aurait jamais manqué. Mais cela ne lui suffit pas. Il s'en alla encore plus loin. Il s'en alla jusqu'à la ville pour y devenir plus savant. Un vieux marchand lui enseigna l'art difficile du commerce et il y excella bientôt. Il devint riche. Mais cela ne lui suffit pas. Et il partit vers d'autres pays. La guerre alors se déclara et dans la guerre il se jeta. Il avait une bonne étoile et aussi un très grand courage. Il devint bientôt commandant. La chance ne le quitta pas, il gagna toutes ses batailles. Il devint bientôt général. Alors enfin, il s'apaisa, car il croyait avoir enfin trouvé ce qu'il avait tant recherché. Le succès couronne l'audace, mais excite la convoitise. On chercha à l'assassiner. Ce fut une vieille mendiante qui essaya de le tuer. Elle était plus laide que laide, repoussante, effrayante à voir, puante, osseuse et dentée. Elle se mit sur son passage avec un fusil bien rempli, et lorsqu'il arriva près d'elle, elle tira trois coups sur lui. Il avait une bonne étoile. Il était prompt. Il échappa à l'attentat. Mais la vieille alors lui cria « Tu as vaincu la pauvreté et tu as vaincu l'ignorance. Tu as vaincu tes ennemis. Mais c'est la mort qui te vaincra. » Et elle disparut de sa vue. Alors, le jeune homme comprit que la vie était trop précieuse. Des millions de fois plus précieuse que tout ce qu'il avait acquis. Trop belle pour être perdue. Qu'il fallait trouver un pays où la mort ne pouvait pas entrer. Et il s'en alla le chercher. Oh, il marcha sans repos ni trêve, demandant à ceux qu'il voyait s'ils connaissaient ce pays-là. Mais personne ne le connaissait. Il ne se découragea pas. En marchant, on fait du chemin. Et un jour, il arriva enfin devant une haute montagne, toute couverte de nuées. Au pied, à côté d'un ruisseau, il y avait un homme, très vieux, qui avait une barbe blanche lui couvrant toute la poitrine. Et ce vieil homme travaillait à user l'immense montagne avec une cuillère en or, et de la poussière qu'il en tirait, il nourrissait un poisson qui était dans l'eau du ruisseau. Le jeune homme vit le vieillard et se dit « Oh, il paraît si vieux qu'il doit bien savoir quelque chose. » Il demanda « Avez-vous entendu parler d'un pays où la mort ne pourrait entrer ?» Et le vieillard lui répondit « Tu viens juste d'y arriver. Aucun humain n'est mort ici et aucun ne trépassera tant que le poisson n'aura pas avalé toute la montagne. » Le jeune homme lui demanda « Combien de temps lui faudra-t-il » Et le vieillard lui dit « 2000 ans. » « Et après ? Ce sera fini. Il n'y aura plus de montagne et le poisson aura grossi et la mort sera bienvenue et nous aurons bien vécu. » « Alors ça ne me suffit pas, » dit l'étranger qui répartit. Il marcha sans repos ni trêve, voyagea de longues années et marchant, il fit du chemin. Un jour, il arriva enfin devant un océan immense, couvert de gros nuages noirs. Et devant ce grand océan se trouvait un frêle vieillard, encore plus vieux que le premier, avec une barbe plus longue, lui descendant jusqu'aux genoux. Le vieil homme tenait un verre qu'il allait remplir dans la mer pour désaltérer un oiseau qui se tenait un peu plus haut. L'étranger pensa à nouveau « Celui-là est encore plus vieux, il doit bien savoir quelque chose. » Il demanda « Savez-vous où est le pays où la mort ne pourrait entrer ?» Le vieil homme lui répondit « Tu viens juste d'y arriver. Aucun humain n'est mort ici et aucun ne trépassera tant que l'oiseau n'aura pas bu toute l'eau de cet océan. Et combien de temps lui faudra-t-il ? Il lui faudrait bien 10 000 ans. Et après ? Ce sera fini. Il n'y aura plus d'océan et l'oiseau se sera envolé et la mort sera bienvenue car nous aurons bien vécu. Alors ça ne me suffit pas. » dit l'étranger qui repartit. Et il recommença de marcher sans se reposer, de voyager sans s'arrêter. Et marchant, il fit du chemin. Il arriva un jour enfin à bout de force et de courage, devant ce pays très étrange qui n'est ni vert, ni bleu, ni rouge, ni blanc, ni noir, ni froid, ni chaud. Où tout devient indifférent parce qu'on y est désespéré. Car c'est le pays de la faim, là où finissent les chemins, là où le voyageur s'arrête parce qu'il ne sait plus où aller. Il crut alors voir un vieillard. Il pensa que c'en était un car il ne voyait plus très bien tant il avait ses yeux usés. Un vieillard avec une barbe encore plus longue que les autres. Elle lui tombait jusqu'aux pieds. Et elle paraissait si abondante qu'on ne pouvait y distinguer le visage d'où elle naissait. Alors le jeune homme pensa comme il avait toujours pensé. « Ah, celui-là, il a l'air si vieux qu'il doit bien savoir quelque chose. » Puis il voulut l'interroger, mais les mots restaient dans sa gorge, tant il l'avait déjà usé. Il murmura « Savez-vous où est le pays où la mort ne pourrait entrer ?» Le vieillard tourna sur lui-même, et le jeune homme découvrit que ce n'était pas un vieillard. Et que la barbe qu'il croyait être une barbe blanche et longue n'était pas blanche, mais dorée. Que ce n'était pas une barbe, que c'étaient les très longs cheveux d'une très belle jeune femme qui, sans rien dire, lui souriait. Elle ouvrit doucement ses bras, comme connaissant sa venue depuis longtemps. Il ouvrit ses bras lui aussi, comme sachant que c'était elle qui devait l'attendre en ce lieu. Il savait qu'il avait trouvé le pays où la mort ne peut pas entrer. Alors, pour la première fois de sa longue vie de voyage, il s'écria « Je suis comblé !» Mais voilà qu'un jour ressurgirent de sa vie passée les images. La vieille et l'aide mendiante qui avaient voulu le tuer. Et tous ceux qu'il avait quittés, lassés de les voir renoncer. Il eut envie de les revoir. Pour leur dire la vérité. Celle qu'il avait accueillie, la reine de ce pays-là, devina vite ses pensées. Et elle désira l'aider. Elle avait de très grands pouvoirs, elle était fée. Elle pouvait se rendre à son gré dans l'endroit qu'elle avait choisi. Son cheval l'y emportait. Il n'y avait qu'une condition. Il ne fallait pas en descendre avant qu'il vous ait ramené, car alors il abandonnait son cavalier. Elle lui prête un cheval pour qu'il retourne chez les siens et elle dit « Ce voyage est vain, tu ne retrouveras personne, mais retourne si tu le veux pour t'en assurer par tes yeux. Ne descends jamais de cheval lorsque tu seras sur la terre, sinon nous ne nous reverrons jamais. » Le cheval fit un premier bond et survolèrent le pays où le jeune homme avait trouvé le vieillard au bord de la mer. Il n'y avait plus qu'un désert, au bord duquel on pouvait voir un petit tas d'os et un ver. Le cheval fit un deuxième bond et ils survolèrent le pays où le jeune homme avait trouvé le premier vieux de la montagne. Il n'y avait plus de montagne, mais seulement des champs de blé, traversés par une rivière, au fond de laquelle brillait une cuillère en or usé. Le cheval fit encore un bond et ils arrivèrent au pays où le jeune homme avait grandi. Mais il ne le reconnut pas, car tout y était différent. Les villes avaient changé de place, on y parlait d'autres langages, on y avait d'autres usages. Alors, il fut forcé d'admettre que 10 000 ans s'étaient passés depuis qu'il s'en était allé. Il comprit qu'il ne restait rien de tout ce qu'il avait connu, de tout ce qu'il avait construit, de ce qu'il avait défendu et de ceux qu'il avait vaincus. Il n'en restait que des poussières, des rêves, des soupirs, des pierres. Il laissa son cheval aller. Et son cheval l'emmena de l'autre côté de la terre, là où depuis la nuit des temps, les hommes se perdent et tremblent. Les chemins y étaient usés, creusés, boueux ou effacés, se suivant ou bien se croisant et se recroisant à nouveau, sans qu'aucune trace ne laisse d'espoir de se retrouver. Une vieille se trouvait là. Elle semblait prête d'expirer, tant elle avait dû cheminer. Elle essayait de retenir contre la pente d'un chemin une grosse et lourde charrette remplie à ras-bord de chaussures. Et la charrette était si lourde, la pente du chemin si raide, et la vieille si misérable, que le voyageur eut pitié. Il descendit de son cheval pour pouvoir lui porter secours. Ah ! La vieille alors se redressa et le saisit au bras et le prit pour que jamais plus il n'échappe. Elle le serra dans ses os, le serra jusqu'à l'écraser. Et lui sentait ses forces s'en aller. Il voyait ses cheveux tomber. Il sentait sa peau se rider. Alors, elle le souleva pour lui montrer cette charrette et les chaussures qui débordaient. Elle lui dit « Regarde toutes ces chaussures que j'ai usées pour te trouver. » Elle le serra un peu plus et il fut réduit en poussière. Tandis que là-haut, dans le ciel, s'en allait le cheval volant vers le pays de cette femme où la mort ne pouvait entrer. Un conte qui nous vient d'Afrique. Ce conte nous dit qu'un homme partit en voyage. Avant de partir, il enfouit quelques pièces d'or qu'il possédait au pied d'un arbre. Son beau-frère, le frère de sa première femme, qu'il avait observé secrètement, profita des pièces d'or. À son retour, l'homme chercha vainement les pièces d'or et se lamenta. « C'est la terre qui t'a volé ton or, » lui dit son beau-frère. Tu dois porter plainte contre la terre. » À l'homme, qui était connu pour sa naïveté, convoqua la justice de son village, qui se réunit autour de l'arbre. Le juge, homme très âgé et très perspicace, se fit raconter toute l'affaire par l'homme et par le beau-frère. Puis il dit « C'est bien, nous allons interroger la terre. » Et s'adressant à la terre, il dit « As-tu volé l'or de cet homme ? Tous les villageois, assemblés en cercle autour de l'arbre, prêtèrent l'oreille, mais la terre ne répondit pas. Le vieux juge répéta sa question. « Terre, je te le demande, as-tu volé l'or de cet homme ?» La terre resta silencieuse. Alors le vieux juge dit « Personne ne savait où cet or était caché. Le beau-frère a raison. Seule la terre peut être coupable. Qu'on apporte un fouet pour la faire parler. » On apporta un fouet et sur l'ordre du juge, l'homme le plus vigoureux du village se mit à fouetter la terre. Mais la terre garda le silence. « Oh, qu'on lui plante des clous dans la chair !» dit le juge. « Qu'on la transperce, qu'on la brûle, elle finira bien par avouer. » On apporta des clous qu'on enfonça dans la terre. On alluma des feux tout autour de l'arbre. Mais la terre refusa de parler. Oh, « Je ne comprends pas, » dit alors le juge. « Comment elle peut résister à tous les traitements que nous lui infligeons ? Peut-être n'est-elle pas coupable ?»« Si, je suis sûre qu'elle est coupable, » s'écria le beau-frère. « Qui d'autre aurait pu prendre cet or ?» Alors le vieux juge, qui depuis le début de cette affaire soupçonnait le beau-frère, lui dit « Si elle est coupable, nous devons en avoir la preuve. Je vois que tu portes une bague d'or à ton doigt. Enfouis ta main dans la terre, à l'endroit même où l'or était caché. » Et attendons demain. Nous verrons bien si la terre te volera ta bague. Le beau-frère ne put refuser cette épreuve. Il laissa donc les hommes du village creuser un petit trou, dans lequel il plaça sa main qui portait la bague. Il s'assit sur le sol. Les villageois recouvrirent sa main avec de la terre et le laissèrent seul pendant toute la nuit. Il écouta les hyènes qui hurlaient dans la brousse et l'agitation incompréhensible des insectes. Puis finit par s'endormir. Quand il se réveilla, il vit tout le village s'avancer vers lui, entourant le vieux juge. Celui-ci s'agenouilla sur le sol, tout près de la main enfouie, examina soigneusement la terre et l'herbe, puis se releva et dit au beau-frère : « Tu avais raison. La terre t'a réellement volé ta bague, à ce qu'il me semble. » « À quoi le vois-tu ? » demanda l'homme soupçonné. « Je le vois « au fait que tu n'as plus de main, » dit le vieux juge. « Ne pouvant arracher la bague de ton doigt, la terre a emporté ta main. »« La terre a emporté ma main ?»« Oui, » dit le vieil homme, « et je vais t'en donner la preuve. Qu'on apporte une épée tranchante. » On lui apporta une épée tranchante qui brillait au soleil du matin. Le vieux juge la saisit fermement et dit au beau-frère, se tenant debout près de lui, « « Dans ma jeunesse, je fus un bon manieur d'épée. Tous ici te le diront. Et il m'en reste encore quelque chose, malgré les blessures de l'âge. Voici ce que je vais faire. Je vais donner un grand coup de cette épée en passant très précisément au ras du sol. Mais comme ton poignet est déjà coupé, comme ta main a été volée par la terre pendant ton sommeil, la lame de mon épée ne tranchera que le vide et tu ne sentiras rien. » « Es-tu prêt ?»« Arrête !» s'écria le beau-frère en voyant le vieil homme lever son arme. En disant ce mot, il arracha sa main de la terre et l'attendit devant lui comme pour se protéger. Tous les assistants virent clairement que la bague se trouvait toujours à son doigt. Et ils se mirent à rire. L'instant d'après, tremblant encore d'émotion, il avouait son larcin. Il rendait l'or au mari de sa sœur. Et le vieil homme dit aux villageois, avant qu'ils ne partent travailler les champs, « Un jour, nous nous coucherons tous dans la terre, comme cet homme avait couché son or. Mais nous, nous n'en sortirons plus. Dirons-nous que la terre nous a volés ? La terre ne peut rien voler, puisque tout vient d'elle. Les hommes se volent entre eux, jusqu'au jour où la terre, à qui tout revient, ne distingue ni le voleur, ni le volé, ni l'objet du vol. » Et je terminerai notre rencontre avec une histoire arabe qui rappelle que le monde est ce qu'il est, en tout cas pour le moment. On rapporte dans les Mille et une nuits l'aventure d'un coq admirable qui s'appelait Voix de l'Aurore et constituait l'orgueil de sa basse-cour. S'étant un jour imprudemment égaré de sa ferme, il aperçut un renard qui venait vers lui. Aussitôt, Voix de l'Aurore s'élança jusqu'au sommet d'un mur en ruine où le renard ne pouvait en aucune façon l'atteindre. Le renard leva la tête vers le coq et lui fit une annonce extraordinaire. « Si tu savais ce que je suis chargé de te dire, tu descendrais du mur pour venir embrasser ma bouche. » Le coq se garda de descendre. Il ne daignait même pas répondre. Alors le renard, qui reprenait son souffle, lui dit que le sultan des animaux, le lion, et le sultan des oiseaux, l'aigle, avaient rassemblé autour d'eux, dans une prairie verdoyante, tous les animaux de la création. Les tigres, les léopards, les vautours, les corbeaux, les antilopes, les chacals, les lièvres, sans oublier les lynx, les panthères, les serpents, les pigeons, les loups et tous les autres. Par décret impérial, dit le renard, il a été décidé que la paix, la sécurité et la fraternité vont désormais régner sur toute la terre. Toutes les vieilles inimitiés vont disparaître. Tous les efforts vont tendre vers le bonheur universel. Et le renard ajouta, il a été décidé que tout contrevenant sera traduit devant la Cour suprême. Et c'est moi qu'ils ont choisi comme héros pour proclamer l'excellente nouvelle, avec ordre de rapporter tous les noms des récalcitrants. Descends, viens m'embrasser, sinon tu risques de tomber sous les coups terribles de la nouvelle loi, qui ne reculera devant aucune férocité pour établir la paix universelle. Allons, réponds-moi, viens. Alors le coq le regarda pour la première fois et lui dit « Je t'honore, mon frère, en qualité de représentant de l'aigle, notre sultan. Si je ne te répondais pas, ne va pas croire que ce fut un signe d'arrogance. Non, cent fois non, mais j'étais fort troublé par ce que je vois là-bas. « Que vois-tu ? » demanda le renard. « Rien de calamiteux, j'espère. » « Eh bien, répondit le coq, il me semble bien que je vois, dans un tourbillon de poussière, toute une bande de faucons de chasse qui s'approchent à tire-d'aile. « Des faucons ?» demanda le renard en tremblant. « Es-tu sûr ?» Et sur le sol, reprit le coq, « je vois une chose qui court très vite, une chose haute sur pattes, longue, mince, avec des oreilles rabattues. N'est-ce point un chien lévrier que tu vois ?»« C'est bien possible. Oh, »« Qu'Allah nous protège !» s'écria le renard. « Tu me vois obligé de prendre congé de toi. » Bah, « tu n'attends pas le chien et les faucons ? Oh non ! Mais ne m'as-tu pas dit que tu venais en héros de la part de nos souverains pour annoncer la paix universelle ?»« C'est vrai, répondit le renard, mais les lévriers et les faucons ont oublié de venir au congrès. » Le renard détala aussi vite que possible. Le coq, satisfait de sa bonne ruse, rentra au poulailler et raconta son aventure à ses compagnes. Ah, tout le monde donna de la voix pour célébrer son grand triomphe. Et ils continuèrent à vivre au jour le jour, tantôt en paix, tantôt en guerre. Eh bien, si le cœur vous en dit, à une prochaine fois !